Vous écoutez L'Autre Monde et nous avons le plaisir d'échanger aujourd'hui avec Renaud, chanteur de Lofofora, à propos de ce nouvel album.
Ben, salut à tous et salut à toi.
On est ensemble pour parler donc de ce nouvel album, mais je vais commencer par parler des dates de concerts qui ont déjà commencé, puisque vous avez des dates qui tournent là depuis le mois d'octobre, et puis ça se prolonge après jusque 2025. Comment ça se passe, cette nouvelle rencontre avec le public là en cet automne 2024?
Bah pour nous, c'est tout début de la tournée, puisque l'album est sorti le 4 octobre. On a fait quoi, 7 dates depuis, même pas, je crois. On a dû faire, à peine, depuis la sortie de l'album. Et les premières réponses sont hyper encourageantes, quoi, parce que le public répond présent. On se rend compte qu'on a des anciens qui continuent à nous suivre, mais qu'on a un public qui se renouvelle quand même. Et ça, c'est vraiment plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par... par un groupe de vieux comme nous, quoi. Donc ça fait carrément plaisir. Et puis on a eu le plaisir de faire une date à l'île de la Réunion un peu plus d'une semaine, et c'était un truc de fou, une ambiance de mongole avec plein de monde, et puis on a fait un super beau séjour là-bas. Donc là on est encore un peu sous le charme de ça. Ouais. On a hâte de retourner au contact, comme... voilà.
L'idée avec cet album Cœur de Cible, c'était quoi, on va dire, parce que comme tu disais, Lofofora, vous avez de l'expérience, vous avez plus rien à prouver auprès de personne, le discours il est toujours assez clair dans vos idées, dans vos revendications et dans votre, on va dire, ouverture d'esprit. Vous vouliez donner quoi comme message supplémentaire avec Cœur de Cible?
Le premier souci du groupe, c'est de se dire qu'on a déjà fait, on avait déjà fait 10 albums studio, et on trouve que pour un groupe qui est vu comme installé entre guillemets, mais nous on le ressent pas comme ça, parce qu'on se dit que on a tout à redémontrer à chaque fois, ou en tout cas justifier le fait de faire un album et d'être encore présent, si c'est juste pour réchauffer la même soupe et bien que j'espère qu'on n'a pas fait trop de la soupe quand même, mais si c'est pour toujours réchauffer la même recette et jouer sur la corde un petit peu nostalgique qui est forcément naturelle, mais qui nous intéresse pas, parce qu'on a l'impression, on se dit que faire du rock c'est être connecté sur l'instant présent, et donc on avait envie de donner ce qu'on avait de meilleur d'une façon en même temps enthousiaste, parce que il y a de l'enthousiasme entre nous, entre les quatre membres du groupe, quand on doit composer ensemble, quand on doit faire des morceaux ensemble, il y a quelque chose, il y a une énergie qui naît entre nous quatre et qu'on a envie de partager, et on avait envie d'être spontané, sincère et en même temps de faire un album assez consistant, quoi, enfin quelque chose qui pas juste une répétition, même si on a toujours essayé de sortir de tout se permettre avec Lofofora, mais voilà quoi, de se renouveler en tout cas.
Vous sortez vraiment des sentiers battus, je trouve, sur quelques titres. Alors il y a celui qui est très blues rock.
Ouais, le morceau qui s'appelle Les Deux, peut-être.
Ouais, exactement.
Là, presque, avec une intro presque rockabilly, quoi, on peut le dire.
C'est vrai. Alors, j'ai eu le dossier de presse, comme on dit, avec toutes les petites explications, mais c'est vrai que il y a de quoi un peu tomber de sa chaise quand on entend ça, et en même temps, vous avez réussi, je trouve, à vous réapproprier l'ambiance, justement, rock'n'roll, ce riff-là, cette ambiance-là, vous en êtes arrivé... Enfin, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous éloigner, façon de parler, du Lofofora qu'on peut connaître?
Parce que, comme je te le dis, il y a longtemps, on s'est dit on peut tout se permettre. Sur le premier album de Lofo, t'avais des intros quasiment trash ou death metal avec des parties reggae. Il y avait des morceaux presque jazzy, des trucs très groove, des trucs, des passages assez punk. Et voilà, c'est toujours tous ces ingrédients-là qui ont évolué par deux influences, etc. Mais on s'est jamais rien refusé avec Lofofora, quoi, depuis le début, et à peu près à chaque album. Alors peut-être que sur quelques albums précédents de ces 10 dernières années, peut-être qu'on était resté peut-être dans un truc un peu plus metal, punk, crossover, comme ça. Et voilà, on a voulu rejouer un petit peu. C'est Daniel, le guitariste, quand il nous a envoyé ce fichier guitare là par mail, on a tous un peu halluciné. Puis moi, je suis un énorme fan des Cramps, donc c'est pour moi c'était carrément un clin d'œil à ça. Et il l'a fait assez involontairement, et j'avais envie de faire quelque chose à l'opposé de mon idole Lux Intérieur, quoi. Et de faire quelque chose de justement très Lofoforesque, peut-être, quoi. Donc j'ai essayé de trouver un placement de voix qui fait que déjà ça emmène le truc un petit peu ailleurs. Et voilà, quoi, on s'amuse entre nous, quoi, aussi. On aime bien ça, quoi. On n'est pas blasé de composer ensemble, d'être ensemble pour faire de la musique. C'est un de nos plus grands plaisirs dans la vie. Donc, voilà, on a envie que ça transpire aussi dans la simplicité aussi de certaines compos.
Il y a un autre titre dont j'aimerais parler tout de suite, c'est Laisse pas faire. Ouais. Je trouve très très varié musicalement, façon de parler, avec un super solo de guitare en plus. Je le trouve très percutant celui-là, et apparemment c'est le petit dernier au niveau de la composition, ce morceau-là, qui se trouve en plus
c'est à la maison. J'étais en train d'écouter le premier album des Beastie Boys, comme ça m'arrive assez régulièrement, parce que je trouve c'est un album fondateur, quoi. Mmh. Voilà. Et puis dès les premières mesures, je me dis mais qu'est-ce que c'était bon ça. Et puis voilà, c'est un groupe disparu, et donc j'avais envie de leur rendre hommage, parce que c'est vraiment un groupe qui a compté. Ça fait partie de ces groupes entre guillemets superficiels, mais qui font l'histoire du rock, comme les Stooges avec Iggy Pop, tu vois. On avait un guitariste, Ron Ashton, qui a quand même sacralisé le riff comme ça, d'une manière tout à fait discrète en fait, mais qui a apporté énormément à la façon de concevoir le rock dans une version sauvage et instinctive comme ça. Et les Beastie Boys avaient ça de leur génération, qui est du coup la mienne. Et en fait, voilà, envie de rendre hommage à ce groupe-là par la simplicité ce côté lourd comme ça, et ce flow old school, rap avec un petit ton un petit peu arrogant, quoi. Voilà, j'aimais bien toute la combinaison de ce groupe, qui avait beaucoup plus de fond qu'on pouvait l'imaginer, quoi, qui a fait énormément aussi pour la scène en règle générale, quoi.
Et sinon, pour parler des clips, vous avez sorti en premier La Machette,
ouais.
Qui est effectivement à voir au second degré, façon de parler, parce que c'est vrai que les paroles peuvent être assez incisives si on les prend en pleine tête, mais je le trouve très subtil, façon de parler, même si le texte est un peu dur, quoi.
Le texte, il est c'est aussi, oui, comme tu dis, aujourd'hui on est dans un monde qui manque cruellement de second degré, et j'en suis le premier à le déplorer, mais je vais pas changer mon mode de fonctionner pour autant, quoi. C'est pas de ma faute, hein. Donc moi j'aime ça, donc évidemment que je tourne en ridicule. La façon, la proposition que nous a fait Romain Pernaud, le réalisateur de nos deux derniers clips, enfin pour La Machette, le fait d'incarner un politicien, comment on peut prendre ça au premier degré à un moment donné. Moi ce que j'aimais, c'était justement cette dimension absurde, quoi. Et c'est ça qu'il a pu voir dans le titre aussi, bien sûr qu'il y a de ça, bien sûr qu'il y a de la vraie colère, mais il y a aussi un peu à décrire la colère qu'on ressent, et là où elle peut nous emmener dans notre tête, même si c'est des choses qu'on fera jamais, quoi. Tu vois, Didier Higelin avait parlé, je trouve ça assez moins subtil, de taper Macron avec une batte avec des clous. Bon, évidemment c'est c'est le même genre de violence, quoi, des trucs qu'on peut imaginer mais qu'on fera jamais. Et si l'art ça sert pas à ça, parce que j'en fais avec un A minuscule quand même, c'est dommage, quoi. Mais oui, évidemment que nous, ce qu'on a kiffé là, vraiment, de le travailler avec Romain Pernaud pour les deux derniers clips, l'autre où on est déguisé, enfin on s'est relooké, on était quand on avait 15 ans et qu'on avait envie d'emmerder nos parents. Et parce que justement c'est un petit peu le même sujet, quoi. C'est un peu railler nos colères, quoi, et où est-ce qu'elles nous emmènent, et à quel moment c'est constructif. Il y a aussi cette question là l'Ophophora, c'est jamais positionné en tant que porte-drapeau, donneur de leçons ou de solutions de quelque sorte qu'il soit. Voilà.
Oui, tu étais en train de nous parler de Constat 2024, où on a un côté un peu VHS, nostalgique.
Ouais. Bon, on s'est régalé à faire ce clip, ouais. Et puis on avait des comédiens qui sont venus jouer nos parents, qui avaient autour de 80 ans et avec qui on a rigolé toute la journée. C'était multigénérationnel, jusqu'à la maquilleuse qui devait avoir une vingtaine d'années. Okay. Donc c'était une super ambiance de clip. Et puis voilà, là aussi, c'est un peu se moquer de notre candeur persistante.
L'album s'ouvre sur Apocalypse,
oui.
Qui est un peu comme tous les autres morceaux, mais qui est un vrai constat en fait de la ruine de notre monde, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est un peu un peu un énoncé un peu monocorde, donc d'un peu comme une chaîne d'infos, quoi, de ou comme on bouffe toutes les infos sur Internet, où à un moment tout a la même saveur, le même ton, le même drama. Enfin voilà, il y a plus, même si on peut pas hiérarchiser les causes et les peines, il y a un petit peu là un truc qui rend la chose presque insipide et abstrait pour beaucoup de choses qui peut nous passer entre les yeux, entre les oreilles. Donc c'est un petit peu voilà, ça part de ça, quoi, parce qu'on en est là, quoi. On est abreuvé à longueur de journée de pour la plupart de mauvaises nouvelles en plus. Donc on a du mal à prendre du recul là-dessus. C'est un peu de ça dont parle cette chanson, quoi.
De façon plus générale, sur l'ensemble de Cœur de Cible, on est sur des thématiques sociétales, environnementales et politiques. Il y a les 11 morceaux, mais en vrai, vous auriez pu faire un quadruple album, en quelque sorte. Ces 11 titres, c'est votre état d'esprit du moment, ou est-ce que vous avez quand même fait des choix pour garder...
Le rock, c'est ça, hein, le rock, c'est ça, ça doit être... Après, j'essaye de pas trop citer des noms, des gens dans les... ou de faire référence à des dates précises dans les albums. J'ai pas envie de citer un ministre ou quoi que ce soit, parce que le mec, dans 15 jours, il est plus là, donc après ma chanson, elle aura un côté jetable comme ça, donc j'essaye de garder quelque chose d'assez intemporel. Mais c'est évident que le rock tel qu'on le conçoit, d'une manière, enfin, où l'énergie du hardcore, etc., comme on le réinterprète à notre façon, c'est ça, c'est être connecté sur l'instant présent et être sensible au monde qui nous entoure, quoi. C'est ça qui... Le rock, c'est une musique de réaction, en fait, quoi. Au sens large, hein, je veux dire ça. Par exemple, faut se tourner vers, voilà, la scène hardcore américaine, ou la scène rock, ou post-punk anglaise en ce moment. Elle est hyper foisonnante et elle est très excitée, quoi. Et enfin, c'est pas une excitation, c'est très tendu, en fait, dans ce que ça délivre aujourd'hui, quoi. Et ça provoque une énergie, moi, qui me va bien, en tout cas. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on a envie de partager dans nos disques, c'est sûr.
Vous avez travaillé avec Francis Cast. Une première pour vous. Alors Francis Cast, qu'on ne présente plus tellement il a eu de collaboration avec son studio et puis tout ce qu'il fait de son côté. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller travailler avec lui cette fois?
Bah, c'est un conseil de notre ingé son, Jean-Marc Pinault alias Mazarin. Parce que c'est lui, avec lui on avait travaillé sur les précédents albums. Sur celui-ci, on avait envie de travailler avec lui à nouveau. Et il nous a dit, bah ok, mais ça serait quand même mieux d'emmener le truc un petit peu plus loin. Et son idée, c'était justement de faire mixer par quelqu'un d'autre. Et il nous a proposé Francis Cast, et on a trouvé que c'était une excellente idée. Et Francis était très motivé à l'idée de mixer un de nos albums. Et puis surtout, pour lui, c'était la première fois qu'il allait mixer un album qu'il n'avait pas enregistré. Et ça lui a bien plu comme exercice, et on adorait, justement, comme tu disais, il y avait une grande diversité dans les sons des morceaux. Il y a des trucs très métal, des trucs très punk, une intro rockabilly dont on parlait tout à l'heure. Et il a réussi à donner une espèce d'unité à tout ça, et on était super super fiers de ça, enfin super contents de son boulot, quoi, et de se dire, bah, que mine de rien, on pouvait partir dans tous les sens. Il y avait quand même une unité quand même dans notre groupe qui était palpable, et lui avait su la mettre en avant, et ça donne du sens à le disque, je trouve. Voilà.
Vous lui aviez donné des consignes?
Très peu, non, vraiment très peu. On n'était même pas là au mix, hein, alors qu'on n'était pas si loin, on aurait pu passer le voir au studio. Enfin, on avait quand même d'autres chats à fouetter à ce moment-là, mais peut-être qu'on était je sais plus si on était en répète, en résidence ou un truc comme ça. Enfin bref, non, il l'a mixé tout seul dans son studio. Ouais, il y avait peut-être 2-3 petites indications comme ça, mais on est resté assez évasif, quoi, histoire de lui donner des on parle pas de fréquence ou trucs comme ça, hein. On parle d'adjectifs, de sentiments, donc on a dû lui glisser 3 mots comme ça, mais quelque chose d'assez abstrait, histoire de lui laisser un peu le champ libre, quoi. Puis je trouve que quand on a envie de collaborer avec quelqu'un, il faut pas le brimer, quoi. Faut pas lui dire t'as le droit d'aller de là à là, sinon ça va plus. Non, tout l'intérêt, c'est ce qu'on fait avec l'ingé son qui nous enregistre aussi. Après, il y a des choix qui sont ensemble, mais dans la plupart des cas, quand on collabore avec des gens, on leur laisse le champ libre pour qu'ils donnent tout ce qu'ils ont à nous donner, quoi. Voilà.
Et sur la partie enregistrement, donc avec votre ingé son, donc Jean-Marc oui. Pinault, et vous êtes allé au Tone Studio. Est-ce oui. que vous avez changé des choses, on va dire, au niveau matériel, peut-être, pour cet album-là, par rapport au
bah, non, pas particulièrement. Non, bah, après, il y a des micros qui sont sur place, alors moi, je saurais pas t'en parler. Je m'intéresse très peu à ça. Ouais. Donc, on a essayé, il a fait des essais, il y avait des micros intéressants. Apparemment, il y avait un parc de micros intéressants et des trucs un peu à l'ancienne. C'est là-dessus que ça s'est fait, mais après, le matériel, mis à part que Vincent venait d'acquérir sa nouvelle batterie.
Ok.
Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Mmh. Il joue sur des W, donc ça donne un bon... voilà, ça nous a donné une bonne énergie au niveau de la batterie aussi, parce qu'il était tout content d'avoir un nouvel instrument. Mmh. Un instrument qui sonne pigrement bien. Mmh. Voilà.
Et toi, sur ta voix, est-ce que tu as eu des façons un petit peu différentes d'aborder certains passages, des émotions
pas, je sais pas, ouais, c'est aux gens de me le dire. Moi, j'essaye des trucs, je m'interdis plus rien non plus à la voix dans l'OFO, quoi. Après, à part si je sais pas, si il y a une mélodie qui me vient, je me dis, mais non, c'est, en fait, ça, c'est le parking des anges de Marc Lavoine, là, je vais peut-être... Non, mais ça m'arrive pas, hein, je rigole. Mais à part, si j'en arrive là, je m'interdis rien, non, je peux faire le crooner, je peux brailler, voilà, peut-être, je me rends compte, je mets peut-être un petit peu moins de grain dans ma voix, parce que il y a des anciens albums de Lofo, je réécoute, je me dis, mais pourquoi je fais cette voix de troll un petit peu, à part moment, je trouve ça un petit peu parodique avec le temps. Donc j'essaye d'avoir, même si je peux partir dans des couleurs différentes, j'essaye de le faire vraiment au feeling et sans essayer de trop forcer le trait pour autant, quoi.
Un mot sur la pochette et les artworks dont ouais. tu es responsable.
Ouais, exactement.
Ton idée, en fait, de départ, et comment est-ce qu'on en arrive? Alors, on va parler du cœur et puis après, on va parler à l'intérieur du clown. Ouais. le cœur d'abord, comment on en arrive à...
Ah, parce que je sais pas pourquoi, j'imaginais un truc avec un cœur au milieu, mais je savais pas au départ si c'était un cœur dessiné comme sur une carte à jouer, et puis pour le coup c'est inspiré des cœurs qui sont sur les cartes de tarot espagnoles, quoi. Oui. C'est la carte El Corazón, donc qui est souvent percée d'une flèche comme ça, et puis moi le mien il est en plus transpercé de plein d'autres trucs, quoi. Donc c'est un peu comment dire, raconter de quoi ça parle, qu'est-ce qui s'exprime là-dedans. C'est mon cœur, c'est nos cœurs transpercés par la violence du monde, quoi. C'est un petit peu ça.
Et le clown, justement, avec ce viseur et puis sur le mur le tag bordel de merde, comment on en arrive à ça?
C'est un truc que j'ai construit toute pièce, j'ai fait ça sur Photoshop avec, je sais pas, j'avais 90 calques, ouais. Tout composé à partir d'une rue complètement vide, en fait, qui est donc de ce fait méconnaissable, puis là que c'est un peu une rue surchargée en chaos, enfin voilà, et puis au milieu il y a un clown comme ça, un peu qui a l'air un peu perplexe, quoi, puis en même temps un peu vengeur, évidemment, c'est un peu le Joker, c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu moi, quoi. C'est un peu un clin d'œil à une phrase dans le constat 2024, où j'ai dit, et maintenant, de quoi j'ai l'air à gueuler encore là, peut-être sûrement d'un clown qui accroche un sourire à son désespoir. Donc c'est un peu ce personnage-là, je pense, qui est représenté sur ce truc. Disons que le fait de faire la pochette moi-même, ça m'a permis de donner encore vie au texte d'une autre manière, par clin d'œil, comme ça, à travers tout ce qui est dessiné, quoi. Enfin, tout ce qui contient le graphisme, voilà. Du truc, même le titre, hein, il m'a été, le titre de l'album Cœur de Cible, il m'a été inspiré par le visuel, en fait. C'est pas le titre d'une chanson, ça ne correspond à rien particulièrement dans un texte ou quoi, mais ça résume un petit peu tout ce que contient ce disque, quoi. C'est tourné d'une manière un peu plus cynique qu'elle ne l'est déjà, cette expression de marketing, en fait, le cœur de cible.
Oui.
Quand on veut vraiment pas louper son client, quoi. Et j'ai l'impression que la violence de ce monde loupe vraiment pas son client, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà. Savoir comment elle doit nous faire réagir, c'est à chacun d'en décider. Moi, je fais de la musique.
Donc l'activité pour le groupe là dans les semaines, les mois à venir, comme on disait au début de l'interview, c'est les lives.
Exactement, ouais, pas mal de dates là qui vont s'enchaîner. On est à peu près entre 7 et 10 dates par mois, je pense, sur les les mois à venir, donc c'est plutôt cool, quoi.
Est-ce que vous avez des projets de nouveaux clips ou justement, comme vous êtes en tournée de captation live pour...
Écoute, pour l'instant, il n'en est pas encore question. On est encore sur, t'as vu, la promo de l'album. Et va savoir, quoi, pourquoi pas, voir comment ça se passe sur cette tournée. Là, je te dis, on n'en est vraiment qu'aux prémices. On avait fait 2 dates le week-end de la sortie de l'album, ou une seule, je crois. Puis après 3 dates au bout d'une semaine, où déjà ça a répondu très présent. Après, on est parti à La Réunion, donc voilà. Voilà, on a un festival en Bretagne ce week-end, et puis ça va s'enchaîner à fond. On va voir dans quelle énergie ça nous met, mais c'est clair que faire un live, ou je sais pas, ou peut-être ressortir un titre, un truc, je sais pas. Avec des copains, on verra bien quoi. On verra comment ça se présente, on va laisser faire l'inspiration.
Quelque chose de plus que tu souhaiterais nous dire à propos de cet album Cœur de Cible avant que je passe à ma dernière question ?
Non, je crois qu'on a fait acheter en plein pour Noël. Que je puisse finir de payer ma piscine. Non, non, c'est cool.
Cette année, je te propose de changer de maison.
Ok.
Je te propose 5 maisons et tu choisis celle qui te plaît le plus.
Pour aller vivre, tu veux dire ?
Ouais, exactement.
Ok, ok.
Tu as le choix entre la maison de la famille Maitland en référence à Beetlejuice.
Ouais, c'est là, oui, c'est la famille de Beetlejuice. Enfin, ouais. C'est la, ouais, d'accord, la maison en question, d'accord.
L'atelier du Père Noël.
Ouais, ça doit être bruyant.
La maison de la sorcière dans Le Voyage de Chihiro.
Ah, ça, j'ai pas vu, donc je sais pas à quoi ressemble cette maison.
C'est une maison d'inspiration thaïlandaise où à l'intérieur, en fait, c'est des bains. C'est tenu par une sorcière. Il y a plein de yokai qui vont là-bas pour se nettoyer.
D'accord. Okay.
Une espèce de spa géant sur plusieurs étages. Voilà. La maison de la famille Ingalls en référence à la petite maison dans la prairie.
Oh non, non, il doit faire trop froid l'hiver.
Ou sinon, le palais de Scheherazade. Tu prendrais quelle habitation ?
Le palais de Scheherazade. Waouh. Moi, je vais rester sur la première, en fait. Ouais. Moi, je la trouve sympa, cette maison, quoi. Mm-hmm. La maison de la famille dans Beetlejuice, ouais. Hein, elle est jolie, quoi.
Oui.
Une petite maison, ça reste... Le coin a l'air sympa. Bon, après, on gérera avec les voisins, quoi. On verra comment ça se passe. Mais non, ouais, j'aime bien celle-là.
Ok. Un dernier mot pour conclure ?
Vive le rock. N'hésitez pas à aller au concert, soutenez des petits groupes. Allez voir les concerts à pas cher dans les bars, dans les petites salles. Soutenez vos assos locales, parce que c'est comme ça que, enfin, c'est par ce biais-là que se développe la diversité et puis la richesse d'une scène rock, metal, etc. Dans le pays, quoi. Comme ça, il y a des groupes de chez vous qui viendront partout à travers la France et pourquoi pas plus loin. Donc voilà, faut soutenir la jeune scène émergente, c'est super important.
Merci beaucoup, Renaud.
Eh ben merci à toi.
Et puis bah bonne tournée.
Bah ouais, on va essayer qu'elle soit bonne, qu'elle soit excellente.
Encore merci.
Bah merci à toi, c'était très agréable.